le texte de partage de ce matin, donc il se trouve dans Actes 18. Nous allons lire les 17 premiers versets et nous allons ensemble essayer de trouver quelques éléments qui vont nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Donc Actes chapitre 18, nous allons lire les 17 versets. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier qu'eux, ils fabriquaient des toiles de tente. Il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et s'est rendu chez un certain Titus Justus. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant une année et demie, il enseigna la parole de Dieu. À l'époque où Gallion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour saisir Paul et ils l'amenèrent devant le tribunal. Là, ils accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se prépara à répondre quand Gallion dit aux Juifs, écoutez-moi aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerai votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur les mots, sur des noms, sur votre loi particulière, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge. Là-dessus, il les renvoya du tribunal. La foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roi de Coup devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Que la parole du Seigneur soit bénie ce matin. Oui, on peut découper notre texte en quatre principales parties, mais du verset 1 au verset 3, nous décrivent un peu le contexte dans lequel on se retrouve dans ce passage. Donc, le contexte, je veux dire un peu plus large, c'est se situe dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul a engagé, je veux dire, une série de voyages, et ça fait partie de la deuxième partie de ses voyages missionnaires. Donc Paul, il part de la base Antioche, et par la suite il visite Derbe, par la suite il visite Lystre. Après il va à Iconium, à Tros, à Néapolis, à Philippe, à Amphipolis, à Apollinie, à Thessalonique, à Bérée. Ensuite à Athènes, pour atterrir à Corinthe, et après il passera par Sancrée, pour arriver à Éphèse. Donc, au cours de ces différents voyages missionnaires, Paul, à chaque fois, je veux dire, il est persécuté. Quand il arrive dans une ville, il vit souvent des situations particulières où il annonce la bonne nouvelle, certains la reçoivent, d'autres non. Et il vit même des situations au cours de laquelle il est emprisonné, il est battu à cause de sa vie, je veux dire, de témoin. Donc, il est persécuté à la ville de Bérée. Et Paul se réfugie à Athènes, on l'a vu la semaine dernière, dans Actes 17, où il arrive à l'Areopage et il annonce la parole. Donc c'est d'Athènes qu'il part pour arriver, je veux dire, à Corinthe, où on se trouve actuellement. Corinthe était présentée comme la plus grande ville, ou la capitale romaine de la province d'Achaïe. Donc c'était une ville, une province qui se trouvait au sud de la Grèce. C'était une province qui était très peuplée. Elle était aussi caractérisée par la présence du commerce. C'était une ville où il y avait beaucoup de commerce à cause des deux grands ports qu'il y avait dans cette ville-là. Aussi, la ville de Corinthe est réputée comme étant, je veux dire, une cité de philosophie aussi. Il y avait beaucoup d'écoles philosophiques dans cette ville-là. En plus de cela, certains historiens disent que Corinthe, c'était la cité d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Et que dans cette ville, on rendait non seulement un culte à l'empereur, mais aussi on rendait un culte, je veux dire, à cette déesse de la beauté. Et souvent dans les temples, il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Donc il y avait des filles qui étaient consacrées, je veux dire, dans ces temples-là. Et puis il y avait une certaine prostitution qui se vivait. Et dans cette ville également, il y avait un bon contingent de juifs qui avaient été déportés, qui vivaient dans la ville de Corinthe. Donc c'est la ville dans laquelle Paul, je veux dire, arrive pour pouvoir continuer la mission que le Seigneur lui a confiée. Et dès le début, c'est important de voir que Paul arrive à Corinthe. Au départ, il ne connaissait personne dans cette ville-là. Il ne savait même pas, je veux dire, qu'il allait rencontrer dans cette ville. Mais le texte met en avant une rencontre décisive, une rencontre particulière que Paul fait dans cette ville de Corinthe dans les trois premiers versets. Le texte nous dit que Paul arrive à Corinthe et rencontre un juif nommé Aquilas et son épouse Priscille qui avait été, je veux dire, chassée, expulsée de Rome par Claude et qui vivait, je veux dire, à Corinthe. Ce n'est pas anodin si le texte, si Luc nous parle de ce couple. Le texte continue en nous disant que Paul, je veux dire, reçoit de la part de Priscille et Aquilas l'hospitalité. Priscille et Aquilas vont loger Paul pendant son séjour à Corinthe. Priscille et Aquilas vont devenir, je veux dire, des amis sincères, des partenaires pour Paul dans sa mission. Priscille et Aquilas vont devenir, je veux dire, des partenaires avec Paul, non seulement par rapport à sa formation ou son travail en griffe séculier de faiseur de tente, mais aussi, je veux dire, associés pour la mission, pour la gloire de Dieu. La première question qu'on peut se poser ce matin, en pensant à cette deuxième série des voyages de Paul qui l'ont conduit jusqu'ici à Corinthe, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui motivait Paul dans tous ses déplacements? Pourquoi Paul allait de ville en ville? Qu'est-ce qui motivait un tel engouement, une telle passion pour Paul? Si je posais la question à certains ce matin, mais pourquoi tu es venu en Tunisie? Beaucoup me diront, je suis venu en Tunisie, ouais, pour suivre mes études universitaires, pour avoir un bon diplôme et après pour avoir un bon travail. Mais quelle était la motivation de Paul? Qu'est-ce qui encourageait Paul à se déplacer? Au départ, Paul, dans Acte 9, il se déplaçait pour aller persécuter, je veux dire, l'Église, les chrétiens. Mais Paul, dans son cheminement, a rencontré le Seigneur Jésus qui a transformé sa vie et désormais Paul se déplaçait de ville en ville, non plus pour persécuter les gens, mais de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ici, à Corinthe, Dieu nous montre que Paul a rencontré Paul et Silas, un couple qui est devenu partenaire avec Paul dans la mission. Que Dieu nous aide dans notre parcours à trouver des Priscilles et Aquilas qui seront pour nous des amis sincères en Christ, des partenaires qui nous aideront, je veux dire, non seulement, je veux dire, à travailler dans notre domaine de formation, mais aussi, surtout, à travailler pour la gloire de Dieu. La question que j'aimerais nous poser, d'après ces trois premiers versets, est-ce que tu as des amis en Christ? Est-ce que tu as des vrais amis en Christ? Est-ce que tu as des amis avec qui tu peux vivre une relation, je veux dire, de redevabilité? Est-ce que tu as des amis en Christ avec qui tu peux vivre une vraie relation de communion fraternelle? Est-ce que tu as ce type d'amis en Christ? Ou est-ce que tu es un chrétien singleton qui vit ta vie tout seul? Est-ce que nous avons des vrais amis en Christ?
Est-ce que nous avons des vraies personnes qui nous aiment, que nous aimons en Christ, avec qui nous pouvons nous associer pour travailler à l'avancement du royaume de Dieu? Que Dieu nous fasse la grâce de trouver des Priscilles et Aquilas dans notre cheminement. Mais que Dieu nous fasse aussi la grâce d'être nous aussi des Priscilles et des Aquilas pour Paul. La rencontre de Paul avec Priscille et Aquilas sera déterminante pour la suite du ministère de Paul dans cette région. Et c'est intéressant de voir aussi que le texte nous rappelle que Paul, je veux dire, il travaillait. C'était un poseur de tente. Mais que, je veux dire, même son travail qu'on peut dire séculier, rentrait dans le cadre d'un travail plus grand, de travailler pour la gloire de Dieu. Paul et Aquilas et Silas nous apprennent qu'on peut inscrire notre travail, inscrire notre formation universitaire, inscrire les dons, les talents que Dieu nous donne dans le plan de Dieu, dans le grand plan qui contribue à faire avancer le royaume de Dieu. Paul, Priscille et Aquilas, dans ces premiers versets, nous montrent cela. Est-ce que nous avons des amis en Christ? Est-ce que nous avons des frères, des sœurs avec qui nous pouvons vivre une vraie relation de redevabilité, avec qui nous pouvons grandir, avec qui nous pouvons vraiment travailler, réfléchir, non seulement pour réussir dans notre formation professionnelle, mais surtout que cette réussite dans la formation professionnelle puisse entrer dans le grand mandat d'aller et de faire de toute une nation de disciples, de travailler à la gloire de Dieu. Luc continue dans sa narration à partir du verset 4 et du verset 6. Il nous parle maintenant du ministère de Paul à la synagogue, donc auprès des Juifs. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie, mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriait. Ainsi, il secoua contre la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » On voit, je veux dire, la première partie ou la première facette du ministère de Paul est concentrée dans la synagogue, est concentrée à l'endroit, je veux dire, des juifs. Et Paul, il témoignait aux Juifs. Il témoignait aux Juifs que Jésus était le Messie. Il annonçait aux Juifs que Jésus était ce Messie, que Jésus était le Sauveur, que Jésus était celui qui donnait la vie éternelle, que Jésus était celui qui était mort pour nos péchés et que c'était par lui seul, par son sacrifice, que nous pouvions être réconciliés avec le Père. Voici le message que Paul annonçait clairement dans la synagogue. Il annonçait à l'endroit des Juifs qui attendaient le Messie. Il disait, c'est Jésus qui est ce Messie. Et c'est triste de voir, au verset 6, la réponse ou la réaction des Juifs au message de Paul. Ils refusent le message de Paul. Ils refusent la bonne nouvelle que Paul leur annonce. Ils refusent de croire en Jésus comme étant le Messie. Ils refusent le message que Paul leur annonce. Quel est le contenu de notre témoignage? Quel est le message que nous annonçons? Quel est le contenu du témoignage de nos vies dans ce pays? Quel est le contenu du témoignage de nos vies auprès des membres de nos familles? Quel est le contenu du témoignage de nos vies de chaque jour? Est-ce que nos vies, est-ce que nos paroles annoncent clairement que Jésus est le Messie? Est-ce que nos vies, est-ce que nos paroles annoncent clairement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père autrement que par lui? Est-ce le message, est-ce le témoignage que nos vies, que nos paroles rendent? Ou le contenu de notre témoignage est totalement différent? Mais le texte nous montre clairement que le contenu du témoignage de Paul, c'était Jésus, Jésus seul, qui est le Messie, qui est le Sauveur, qui donne la vie éternelle, qui nous réconcilie au Père. C'est par lui et uniquement par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. La réaction des Juifs à la fin aussi peut nous attrister. Ils refusent le message, ils refusent de croire en Jésus comme étant le Messie. Et après ce refus, Paul décide de réorienter, je veux dire, un peu son travail dans la ville de Corinthe. Désormais, il va se focaliser sur les non-juifs. Puisque les juifs ont rejeté le message, puisque les juifs ont rejeté la parole, Paul décide d'orienter maintenant sa mission à partir du verset 7 et la fin du verset 6 vers les non-juifs. Quelle est la réponse que tu donnes lorsqu'on t'annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Quelle réponse tu donnes face à l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus? Quelle réponse tu donnes lorsqu'on t'annonce qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu le Père grâce à Jésus? Les Juifs, dans le texte, ont rejeté ce message, ont rejeté cette bonne nouvelle. Et à partir du verset 7, Paul va s'orienter, Paul va se tourner vers les païens, vers les non-juifs. Et à partir du verset 7, il commence ce que j'ai appelé le ministère hors de la synagogue. Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. C'est le début, c'est la naissance de l'église de Corinthe. C'est la naissance de l'église à Corinthe. Les personnes ont écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ont cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il y a eu des personnes qui se sont faites baptiser. C'est la naissance, je veux dire, de l'église de Corinthe. Et la suite du texte nous montre, je veux dire, un encouragement que Dieu donne à Paul. Parce que j'imagine que, comme on l'a vu au départ, que depuis ces différents déplacements, depuis le début, à chaque fois, à chaque étape, je veux dire, Paul vivait des oppositions. Paul vivait, je veux dire, des difficultés. Paul vivait des persécutions. Il arrivait dans des villes où il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait quelque chose qui faisait du bien aux gens. Il annonçait la bonne nouvelle, mais plusieurs rejetaient Paul. Il a même été emprisonné dans Acte 16 avec Paul et Silas. Ils ont commencé à chanter dans la prison. Et Dieu, sans doute, savait que Paul avait besoin d'être encouragé. Dieu savait que Paul avait besoin d'être encouragé. Dieu savait que Paul avait besoin d'être rassuré. C'est pourquoi Dieu vient à la rencontre de Paul au travers de ses paroles et lui dit ceci. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra t'attaquer. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux m'appartient. Parle, ne te tais pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Le Seigneur intervient pour encourager Paul. Le Seigneur intervient pour rassurer Paul par une promesse. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, personne ne mettra la main sur toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Quelles sont les peurs qui gangrènent ta vie? Quelles sont les peurs qui te paralysent dans ta marche avec le Seigneur? Quelles sont les peurs qui te gangrènent? Quelles sont les peurs qui te paralysent? Quelles sont les peurs qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur? Quelles sont les peurs que tu as dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur? Ou encore, qui te fait peur? J'aimerais nous inviter à prendre ces quelques secondes pour réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Ou qui me fait peur? Quelles sont les peurs que je nourris, que j'entretiens et qui paralysent ma vie? Est-ce que c'est la peur de l'avenir? De la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est la peur de rendre témoignage au Seigneur dans ce contexte de vie difficile? Est-ce que c'est la peur du prix à payer pour se consacrer à Dieu, pour marcher avec Jésus comme son disciple? Est-ce que c'est la peur d'être invité à abandonner, à renoncer à sa vie pour suivre le Seigneur? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté par nos amis, par les membres de notre famille, parce que nous appartenons au Seigneur et que nous marchons à sa suite? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir, je veux dire, répondre à certains de ses besoins élémentaires et vitaux? Quelles sont les peurs qui paralysent nos vies? Quelles sont les peurs qui nous empêchent de marcher avec le Seigneur? Quelles sont les peurs qui nous empêchent d'être témoins du Seigneur? Quelles sont les peurs qui nous empêchent de marcher avec Dieu? En fait, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre ces paroles que Dieu dit. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, personne ne mettra la main sur toi. Dieu te dit ce matin, face à tes peurs, face à tes craintes, peut-être que tu as peur des démons et tu te dis, c'est pas la peine de trop m'engager avec le Seigneur, sinon ils vont trop embêter ma vie. Le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur. Je ne t'ai pas laissé. Je suis là. N'aie pas peur. Je prends soin de toi. N'aie pas peur. Je te conduis dans des verts pâturages. N'aie pas peur. Je suis ton bon berger. N'aie pas peur. Je suis ton père. N'aie pas peur. Même si ton père ou ta mère t'ont abandonné, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. N'aie pas peur. Et la deuxième chose qui est attachée au fait de rassurer Paul, il dit, ne te tais pas. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient. Non seulement Dieu rassure Paul, mais il dit, ne te tais pas. Parle, car j'ai dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. En fait, j'ai envie de nous dire ce matin, Dieu nous dit, ne te tais pas, parle, témoigne du Seigneur, annonce la bonne nouvelle de Jésus, car Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Tunis, car Dieu a un peuple nombreux dans nos familles, car Dieu a un peuple nombreux dans ce pays, car Dieu a un peuple nombreux, ne te tais pas, parle et annonce la bonne nouvelle de Jésus, ne te tais pas, parle et témoigne de l'amour de Dieu, ne te tais pas, témoigne auprès de tes colocataires, ne te tais pas, témoigne auprès de tes collègues du travail, ne te tais pas. Témoigne auprès de tes collègues à la faculté. Ne te tais pas. Témoigne auprès de ton bailleur. Dieu dit qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple nombreux dans ce pays qui a besoin d'entendre l'évangile. Et Dieu, dans sa grâce, décide de nous associer pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à ces personnes. Dieu, dans sa grâce, décide d'associer nos mains, d'associer nos bouches, d'associer nos corps pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle également à ces personnes. Alors, ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Mais parlons. Parlons pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parlons pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus. Parlons pour dire que Jésus est le Sauveur. Parlons pour dire que Jésus est celui qui nous aime. Parlons pour annoncer cette bonne nouvelle du Seigneur. Et cette promesse que le Seigneur fait ici à Paul ressemble à ces mêmes paroles que Jésus a adressées aux disciples dans Matthieu 28, après sa résurrection, juste avant qu'il ne parte. Matthieu 28, à partir du verset 18, ces paroles vont dans le même sens que ce que le Seigneur dit à Paul ici. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir appartient à notre Dieu et il est avec nous et c'est lui qui nous envoie pour aller annoncer cette bonne nouvelle, pour aller faire de toutes les nations des disciples. Et Paul avait compris cela. Et c'est pourquoi Paul et ses compagnons ont aligné leur vie pour qu'ils puissent vivre ce mandat que Dieu attache à chacun d'entre nous. La dernière partie du texte, du verset 12 au verset 17, voilà, nous montre un impact, je veux dire un peu du ministère. La bonne nouvelle est prêchée. Il y a des Grecs qui croient en Jésus. L'église de Corinthe naît et commence à grandir. Et à cette époque-là, on nous dit que voilà, des Juifs sont contre Paul. Ils sont jaloux de Paul. Et ils vont chez Gallion pour dénoncer Paul. Ils vont chez Gallion pour accuser Paul. Voici, ils disent à Gallion que Paul cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Ils vont vers le gouverneur pour se plaindre. Ils vont vers le gouverneur avec ce chef d'accusation. Paul cherche à persuader les gens à servir et adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Et je pense, en lisant le texte et le contexte, que ce chef d'accusation, il était valable. Parce qu'effectivement, Paul annonçait la bonne nouvelle à ces personnes-là pour qu'ils adorent le vrai Dieu, qu'ils arrêtent d'offrir des cultes à l'empereur, qu'ils arrêtent d'offrir des cultes à la déesse, à Épaphrodite, pour adorer le seul vrai Dieu. Oui, ce chef d'accusation, il était valable. C'est effectivement ce que Paul annonçait. C'était de ne plus adorer des idoles. C'était de ne plus adorer, je veux dire des hommes, mais d'adorer le vrai et le véritable Dieu. Oui, Paul annonçait ce message. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur a incliné le cœur du gouverneur. Il dit ceci. Si il s'agissait d'un délit ou d'un méfait punissable, j'aurais eu le temps d'examiner cela. Mais en réalité, il n'y a rien de cela. Il s'agit juste des discussions, de mots, des noms relatifs à la loi juive. Donc, en un mot, ce chef d'accusation est irrécevable. Il a laissé partir Paul. Regardez comment Dieu incline le cœur du gouverneur de l'époque en faveur de son serviteur Paul. Est-ce que Paul n'était pas en train d'annoncer, je veux dire, un autre message? Si, Paul encourageait le peuple à arrêter, je veux dire, d'adorer des idoles, d'arrêter de vivre, je veux dire, d'une manière qui était propre à la culture de Corinthe qu'on a présentée brièvement au départ, pour adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Mais Dieu ici touche le cœur de Gallion, qui était gouverneur, incline son cœur en faveur de Paul et dit non, libérez-le. Dieu a incliné le cœur de Gallion, qui était le gouverneur, qui avait l'autorité nécessaire pour faire battre Paul, pour que Paul soit tué. Mais Dieu a incliné son cœur et a permis que Paul soit exempté et que Paul continue à rester à Corinthe, continue à vivre à Corinthe, continue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu a utilisé Paul et tous ses compagnons pour que l'Église, au niveau de Corinthe, puisse aller de l'avant. Dieu a utilisé Paul et ses collaborateurs pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant dans cette ville de Corinthe et dans la suite qu'on lira dimanche prochain. Comment ce texte peut nous parler à nous aujourd'hui? Comment l'exemple de Paul, comment l'exemple de Priscille, comment l'exemple d'Aquilas dans Actes 18, comment ces différents exemples peuvent nous parler à nous aujourd'hui? Paul, Priscille, Aquilas étaient des hommes et une femme de même nature que nous. C'était des hommes et une femme qui ont rencontré Jésus, qui ont rencontré l'amour de Dieu au travers de Jésus et qui ont cru à cet amour-là. Et Dieu leur a donné son esprit qui est venu habiter en chacun d'entre eux. Et le Saint-Esprit a transformé totalement la perspective de vie de chacun d'entre eux. Paul pouvait se lever, effectuer des déplacements, effectuer des visites, aller de ville en ville, de pays en pays. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Mais pour lui, le plus important, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce qu'il avait été touché par l'amour de Dieu. Priscille et Aquilas, dans leur formation de poseurs de tentes, dans leur travail de poseurs de tentes, ils ont compris que leur perspective de vie, ce n'était pas juste de gagner l'argent avec l'argent des tentes, mais c'était d'inscrire leur formation professionnelle, leur travail dans le royaume de Dieu, dans l'avancement du royaume de Dieu. La question que j'aimerais nous poser au travers de ce texte-là, quelle est la perspective que nous avons de nos vies? Pourquoi est-ce que nous vivons? Qu'est-ce qui motive, je veux dire, nos actions, nos choix, nos pensées? Pourquoi est-ce que nous vivons? Quel est le but de notre vie? Est-ce que nous vivons pour devenir riches? Est-ce que nous vivons pour devenir grands? Est-ce que nous vivons pour avoir des grandes maisons, des belles voitures? Pour que lorsqu'on passe, on dise « oui, c'est lui ». Ou est-ce que nous vivons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous vivons pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'à la suite de Paul, est-ce qu'à la suite des autres, des aînés dans la foi, nous vivons à la suite de notre maître Jésus qui a dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et marcher chaque jour à ma suite. Est-ce que nos vies s'inscrivent dans cette perspective-là? De vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Est-ce que nos études universitaires s'inscrivent dans cette perspective-là, de vivre pour la gloire de Dieu, de contribuer à ce que le royaume de Dieu puisse avancer, de contribuer à ce que d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent rencontrer le Seigneur? Est-ce que notre travail s'inscrit dans cette perspective-là? De vivre pour la gloire de Dieu. De vivre pour le royaume de Dieu. De vivre. Est-ce que nos dons, nos talents, notre argent, notre intelligence, tout ce que nous avons, est-ce que nous mettons toutes ces choses-là au service de l'avancement du royaume de Dieu? Ou plutôt, nous mettons cela pour notre propre confort. Paul, Priscille et Aquilas nous montrent que nous sommes invités à répondre à l'appel de Jésus de marcher à sa suite comme ses disciples, en inscrivant nos vies dans cette perspective-là, de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour le royaume de Dieu, de vivre pour que le royaume de Dieu puisse avancer, que mes études, que ma famille, que mon travail, que les biens que j'ai, que mon intelligence, que ma beauté, que tout ce que j'ai puisse s'inscrire dans cela, de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre pour que le royaume de Dieu puisse avancer, de vivre pour que d'autres personnes puissent entendre parler de Jésus et intégrer la famille de Dieu. Comme les paroles de ce chant disent, un jour, tous les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Oui, je rêve de ce jour où nous pourrons être là devant Dieu. Nous entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et puis être à côté des gens comme Paul, des aînés. Et dire, oui, nous avons suivi vos traces à la suite du Seigneur. Quelle est la perspective de nos vies? Quel est le but pour lequel nous vivons? Qu'est-ce qui conduit nos actions, nos choix? Ce matin, à l'exemple de Paul, Priscille et Aquilas, Jésus nous invite à marcher à sa suite comme ses disciples, accepter de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de vivre pour lui, de vivre à sa suite. Quelle est la réponse que nous donnons à cette invitation de Jésus? Quelle réponse nous donnons à cela? J'aimerais nous inviter à prendre un temps maintenant dans la prière pour répondre à cette invitation que Jésus lance à chacun d'entre nous. Soyez mes disciples. Marchez à ma suite. Quelle réponse nous donnons à Jésus ce matin? Prenons le temps de prier et de répondre à cette invitation du Seigneur dans chacune de nos vies.